Bonsoir à tous. À la une ce soir, une étape inédite dans la lutte contre le coronavirus. L'Autriche ordonne le confinement des personnes non vaccinées. La mesure entre en vigueur à partir de demain. Pourquoi la COP26 laisse-t-elle un goût d'inachevé? L'accord arraché hier soir, jugé décevant par les ONG, notamment sur le charbon. Au centre des critiques, l'Inde, qui aura joué, vous allez l'entendre, un rôle déterminant. Un scénario digne d'un film hollywoodien ce matin à la prison de Fresnes. Une détenue s'est échappée de sa cellule en creusant un trou dans le mur avant d'être arrêtée quelques minutes plus tard, récit dans le journal. Et puis du rugby, les Bleus ont largement battu la Géorgie cet après-midi à Bordeaux. L'équipe de France, parfois brillante, parfois brouillonne, à 6 jours de la réception des All Blacks.
France Inter.
C'est donc le premier pays en Europe à imposer une telle mesure. Confronté à un regain de l'épidémie de Covid-19, l'Autriche va se reconfiner. Mais tout le pays n'est pas concerné. Seules les personnes non vaccinées devront en effet rester à la maison. Ce confinement prendra effet dès demain pendant 10 jours et pourra être prolongé par la suite. L'objectif, c'est aussi d'encourager la vaccination dans ce pays de près de 10 millions d'habitants. À Vienne, les précisions de notre correspondante Isorias.
Nous ne prenons pas cette mesure le cœur léger, mais malheureusement, elle est nécessaire. C'est par ces mots que le chancelier Alexander Schallenberg a annoncé le confinement des non-vaccinés en Autriche, qui entrera en vigueur dès demain lundi. Mesure rendue nécessaire par la forte augmentation du nombre de contaminations ces derniers jours. L'Autriche recensant désormais 12 000 nouveaux cas quotidiens. Dès demain, les non-vaccinés devront donc rester chez eux. Leurs déplacements seront réduits au strict nécessaire. Les enfants de moins de 12 ans sont exemptés de cette mesure qui devrait concerner en tout 2 millions de personnes, selon les calculs de la presse autrichienne. Le gouvernement espère ainsi convaincre les réticents de se faire vacciner. À ce jour, 65% de la population a reçu ces 2 doses. C'est trop peu, a insisté Alexander Schallenberg. Aidez-nous à briser cette 4e vague, a lancé le chancelier à l'adresse des non-vaccinés. Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs précisé qu'il y aura de nombreux contrôles pour veiller au respect de ce confinement. Vianne Isorias, France Inter.
Des tensions toujours à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne. La ministre britannique des Affaires étrangères exhorte Vladimir Poutine à intervenir dans ce qu'elle qualifie de crise honteuse et fabriquée. Plusieurs milliers de migrants sont arrivés ces derniers mois en Biélorussie dans le but d'entrer dans l'Union européenne. L'Europe accuse Minsk et Moscou d'avoir orchestré cet afflux migratoire. Une nouvelle série de sanctions contre la Biélorussie sera discutée demain à Bruxelles. Les routes migratoires par la terre ou par la mer, mais toujours dangereuses. 8 migrants sont morts après le naufrage de leur embarcation au large de l'île espagnole de Grande Canarie. Les occupants du bateau, 62 au total d'origine nord-africaine, étaient en perdition, à la dérive, depuis au moins une semaine. C'est l'une des raisons qui pousse des milliers de personnes à l'exil, les effets du dérèglement du climat. Ce fléau était au cœur de la COP26 qui a pris fin hier à Glasgow. Un accord arraché dans la soirée, mais un accord timide. Si des avancées ont été faites sur la réduction des gaz à effet de serre, en revanche, grosse déception sur le charbon. Dans le texte final, il n'est plus question de sortir de ce combustible fossile, mais seulement d'intensifier sa réduction. Un changement sous la pression de la Chine, mais aussi de l'Inde. L'Inde qui est aujourd'hui sous le feu des critiques, comme Bastin.
Phase out ou phase down, tout s'est joué autour d'un mot pour savoir si les 200 pays participants à la COP26 s'engageaient à stopper ou ralentir l'utilisation des énergies fossiles. Lors des dernières heures de la conférence, l'Inde a freiné du pied et c'est finalement un ralentissement dont il est question dans le texte adopté. Une conclusion décevante, critiquée par des pays comme la Suisse et les îles Marshall, dont le président de la COP, Alok Sharma, s'est excusé au bord des larmes. L'Inde dépend encore à 75% du charbon dans son mix énergétique. Chaque nation doit progresser selon ses propres forces et faiblesses. Les pays en développement ont droit à une utilisation responsable des combustibles fossiles, a justifié son ministre de l'Environnement, Bhupender Yadav. Si l'Inde a refusé de ratifier le mot de sortie à la dernière minute, les États-Unis et la Chine, deux premiers pollueurs au monde, avaient cependant fait de même dans un communiqué conjoint cette semaine. Derrière la bataille sémantique, c'est aussi l'engagement financier des pays riches envers les pays les plus vulnérables au changement climatique, comme l'Inde, qui fait défaut dans le texte final. À Bangalore, comme Bastin pour France Inter.
En Angleterre, l'état de santé d'Elisabeth II au centre des inquiétudes. Souffrant du dos, la reine a dû renoncer à assister aujourd'hui à une cérémonie à Londres. Sa dernière sortie publique date d'il y a plus d'un mois. La souveraine de 95 ans, contrainte au repos forcé sur avis médical. Ignoble, scandaleux, les associations de victimes du 13 novembre font part de leur indignation après les propos d'Éric Zemmour tenus hier devant le Bataclan. Le polémiste a affirmé que François Hollande n'avait pas protégé les Français des attaques en 2015. Dans un communiqué, L'association Life for Paris estime qu'Éric Zemmour a abîmé la mémoire des 90 personnes décédées au Bataclan. Vous êtes un profanateur de sépultures, a fustigé sur Twitter le président de cette association. On en vient maintenant à cette incroyable tentative d'évasion digne d'un film d'action. Une détenue de la prison de Fresnes près de Paris a réussi à se faire la malle la nuit dernière. Cette femme de 31 ans emprisonnée pour terrorisme s'est échappée de sa cellule en creusant un trou sous sa fenêtre. Elle a finalement été arrêtée dans la cour du centre pénitentiaire. Jean-Philippe Deniaux.
C'est un projet apparemment isolé et désespéré, comment une source pénitentiaire, si la détenue avait réussi à tromper la vigilance des surveillants en creusant le mur jour après jour avec des instruments de fortune, si elle a réussi à s'extraire de sa cellule du deuxième étage avec des draps noués, il semble qu'elle n'ait bénéficié d'aucune complicité et qu'elle n'ait pas prévu le moyen de quitter l'établissement, si ce n'est en tentant de soulever une plaque d'égout, précisément là où les surveillants ont mis fin à sa cavale, un peu avant 7h ce matin, après qu'elle a été repérée par des détecteurs de présence sur le chemin de ronde. En détention provisoire depuis décembre 2017, à la suite d'un court séjour en Syrie, la détenue, âgée de 31 ans, était dans l'attente de son renvoi devant une cour d'assises pour association de malfaiteurs terroristes. Le parquet antiterroriste a ce matin ouvert une enquête pour cette tentative d'évasion par effraction qui peut lui valoir jusqu'à 5 ans de prison.
Les précisions de Jean-Philippe Deniaux sur France Inter. Barbara Pompili se montre peu favorable à la proposition du patron des chasseurs. Willy Schran veut donner des pouvoirs de police à des chasseurs pour lutter contre la délinquance rurale et environnementale. C'est non, a réagi la ministre de la Transition écologique aujourd'hui à la télévision. Le chef de file des chasseurs qui va quand même faire part de sa proposition lors du congrès des maires qui démarre après-demain. On passe au sport. Sans surprise, le 15 de France a battu la Géorgie cet après-midi 41 à 15, score final. Bonne répétition générale avant d'affronter les All Blacks samedi prochain. Et dans un matmut atlantique de Bordeaux à guichet fermé, les joueurs de Fabien Galthié ont quand même joué sur courant alternatif, parfois très bon et parfois brouillon, Fanny Lechevestrier.
Oui, deuxième victoire en deux matchs pour les hommes de Fabien Galthié dans cette tournée d'automne devant les 40 000 spectateurs de Bordeaux. Les Bleus l'ont donc emporté 41-15, 6 essais à 2, un score fleuve face à la 12e nation mondiale qui nous laisse pourtant un petit peu encore une fois sur notre faim. Alors oui, le duo Jalibert-Ntamack a trouvé un peu plus de constance que face à l'Argentine. Oui, Damien Penaud a réussi un superbe doublé, deux magnifiques essais, mais les Bleus ont eu une fois de plus tendance à jouer par fulgurance, c'est certain. Ils devront hausser le curseur dans 6 jours pour réaliser un exploit face aux All Blacks au Stade de France. Côté géorgien, en revanche, Paris réussit, eux qui s'agaçaient parfois d'être catalogués de joueurs physiques, ont montré qu'ils savaient aussi jouer ballon en main avec de jolis essais.
Fanny Lechevestrier, c'est la fin de ce journal La Météo dans un instant.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour femmes. Laine, fil d'Écosse, soie ou cachemire, belle et naturelle. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et quel temps pour demain lundi? Eh bien, on voit ça avec Jean-Michel Golinski de Météo France.
Demain, le soleil durable, il faudra à nouveau le chercher à la loupe. En effet, la majeure partie du pays va conserver, comme ce week-end, un ciel plombé, ponctué de pluie par intermittence. Mais près des Pyrénées, les précipitations seront plus marquées et souvent neigeuses à partir de 1300 mètres. Dans le quart sud-est, le temps sera plus variable, mais souvent menaçant sur la Corse et la région PACA, avec des intermèdes d'éclaircies entrecoupés de passages d'averses et d'orages, et le vent sera turbulent côté Mistral, Tramontane et pour les rafales d'est entre la Corse et le continent. Le Languedoc et les plaines du Roussillon vont quelque peu rester à l'écart des averses, tandis que sur les Alpes, il va beaucoup neiger à partir de 1500 mètres. En fin de nuit, il est prévu 4 à 8 degrés en général, jusqu'à 12 sur les côtes. En journée, les maximales vont marquer un déficit de 2 à 3 degrés par rapport à aujourd'hui, au nord comme au sud.
C'était Jean-Michel Golinski de Météo France.